Bonsoir. Présentation mardi à Bruxelles du rapport d'audit sur l'aide européenne à la RDC, estimé à près de 2 milliards d'euros de 2003 à 2011. Moins de la moitié des programmes examinés ont atteint les résultats escomptés et leur durabilité ne sera pas assurée. C'est la conclusion de ce rapport qui porte notamment sur le soutien au processus électoral sur la réforme de la justice et de la police. En réaction, le gouvernement congolais rejette les accusations formulées contre lui dans ce rapport. Comment analyser les conclusions de ce rapport? C'est votre thème de ce soir. Nos invités sont Jean-Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Israël Moutala, journaliste à Géopolis, magazine économique des activités extractives. Il est aussi analyste économique. Bonsoir Israël Moutala.
Bonsoir Alain.
Victor Nzouzi, coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement, également analyste économique. Bonsoir Victor Nzouzi.
Bonsoir.
Merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Moins de la moitié des programmes examinés ont atteint les résultats escomptés et leur durabilité ne sera pas assurée. C'est la conclusion du rapport d'audit sur l'aide européenne à la RDC, estimé à près de 2 milliards d'euros de 2003 à 2011. Présenté à Bruxelles mardi dernier, ce rapport d'audit porte sur l'efficacité du soutien au processus électoral, sur la réforme de la justice, la police et la gestion des finances publiques, ainsi que sur le processus de décentralisation. Ce rapport qui critique les autorités congolaises, mais surtout les autorités européennes, exigent à ces dernières de se montrer plus exigeantes à l'égard de leurs partenaires congolais. Innocent Olinga.
Aux yeux des auditeurs indépendants sollicités par la Cour des comptes européenne qui ont séjourné pendant 3 semaines à Kinshasa, au Bas-Congo et au Nord et Sud-Kivu, l'efficacité du soutien européen à la gouvernance est donc limitée, entravée par de sérieux obstacles comme le manque de volonté politique, la faiblesse des capacités d'absorption d'un pays où le cadre administratif est encore très insuffisant. Les auditeurs ne critiquent pas seulement les autorités congolaises avec lesquelles les dialogues devaient être intensifiés, ils balayent surtout devant la porte des Européens, considérant que les objectifs des programmes sont trop ambitieux et manquent quelquefois de flexibilité. Les auditeurs estiment que même si la Commission européenne possède une bonne connaissance des causes et des conséquences de la fragilité de l'État en RDC et n'a pas suffisamment mesuré les risques et qu'elle a mis en œuvre des programmes trop ambitieux à propos desquels le dialogue politique avec les autorités congolaises a été insuffisamment exploité. Rappelons que l'Union européenne a dépensé en RDC entre 2003 et 2011 1,9 milliard d'euros, dont 70% attribués à des projets de développement, 25,5% à l'aide humanitaire et 4,5% à la coopération en matière de sécurité et de politique.
Merci Nonson Olinga. En réaction, le gouvernement s'insurge contre cette tendance à rendre les autorités congolaises responsables et comptables d'une mauvaise gestion des projets auxquels elles ont été écartées de manière formelle par leurs partenaires européens. Se confiant à la presse ce mercredi à Kinshasa, son porte-parole pense que s'il y a mauvaise utilisation des financements gérés par l'Union européenne en RDC, c'est à l'Union européenne elle-même qu'en incombe la responsabilité et non aux autorités qui n'interviennent que pour l'inauguration des projets. Remis, je cite, clé en main, fin de citation, Lambert Mende, au micro d'Innocent Olinga.
S'il est établi aujourd'hui que l'Union européenne a mal géré son aide, nous pouvons nous étonner que ce constat d'échec cherche à impliquer aussi les autorités congolaises dans ce dysfonctionnement. Nous dénonçons le fait que tout se passe dans cette histoire, comme si la Cour des comptes européenne voulait sommer la République démocratique du Congo à rendre compte de la mauvaise gestion de projets de développement auxquels les autorités congolaises n'ont jamais été associées financièrement. En effet, la conception, la définition et l'exécution de la grande majorité des programmes financés dans notre pays par l'aide européenne au développement ont été toujours le fait exclusif d'opérateurs choisis par l'Union européenne, dans l'Union européenne, sans aucune intervention de la partie congolaise.
Voilà, Jean-Michel Dumont, vous êtes ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Monsieur l'ambassadeur, ce rapport qui est quand même assez virulent, j'en ai lu le résumé, n'épingle pas, on l'a vu, seulement les autorités congolaises, mais également les autorités européennes. Comment vous-même vous l'avez reçu?
Écoutez, on l'a reçu comme un encouragement à mieux faire. Je crois que ce qui est important, c'est que la Cour valide la stratégie qui a été choisie et qui fait de l'amélioration de la gouvernance la clé. Alors la Cour dit, vous avez mis des objectifs trop ambitieux. Eh bien, je réponds que si on avait mis des objectifs moins ambitieux, on aurait sans doute obtenu moins de choses. Et quand on regarde l'impact, je dois dire qu'on peut voir quand même des projets qui ont permis d'obtenir des résultats. Je pense en particulier à la police. Lorsque nous avons commencé notre coopération, la police était dans un très mauvais état, il n'y avait pas de recensement. Aujourd'hui, les policiers sont recensés, ils sont payés, ils commencent à faire leur travail dans de meilleures conditions. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Alors, évidemment, il reste des choses à faire. Le verre peut être à moitié vide, à moitié plein. Nous considérons qu'il est à moitié plein.
Alors, monsieur l'ambassadeur, de 2003 à 2011, l'Union européenne qui débourse près de 2 milliards de dollars en RDC, avec ce rapport, ce bilan n'est-il pas négatif?
Non, pas du tout. Je crois que nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons, par exemple, des programmes en matière de santé qui touchent 3 500 000 personnes dans plusieurs provinces du Congo. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les indices de mortalité infantile, de mortalité maternelle ont baissé en quelques années. Nous voyons que les enfants sont mieux soignés. Est-ce que c'est pas déjà un bon résultat?
Nous allons prendre pour vous, monsieur l'ambassadeur, cette réaction qui nous vient de Kananga au Kasaï occidental.
Maître Adrien Ilobakwei Pero à Kananga au Kasaï occidental. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais savoir comment se gère les fonds en cas d'une aide par Union européenne. Est-ce que c'est le gouvernement bénéficiaire qui les gère ou c'est l'organisation qui aide, qui gère ces fonds-là ou la gestion est en synergie?
Là, on a senti une forme de ping-pong entre le gouvernement et l'Union européenne. Qui gère finalement les projets de l'Union européenne?
Écoutez, je vous remercie vraiment de poser cette question qui me permet de répondre très clairement. Nous sommes dans une relation de partenariat avec la République démocratique du Congo, dont le cadre est fixé par l'accord de Cotonou. Alors, les choses sont vraiment extrêmement claires. Tout d'abord, notre stratégie, dont la Cour a indiqué qu'il la considérait comme pertinente, elle est fondée d'abord sur un document qui est élaboré par les autorités congolaises, qui est ce qu'on appelle le document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. Et
DCRP.
C'est sur le DCRP 2, puisque c'est la deuxième version qui est à l'heure actuelle en utilisation. Et donc, ce document est le document qui fonde notre stratégie. Ensuite, nous allons voir le Premier ministre, le ministre des Finances qui est l'ordonnateur national, nous allons voir les différents ministres et nous discutons avec eux de ce qui leur paraît le plus pertinent. Et c'est eux qui fixent les priorités que nous allons ensuite, de concert avec les autorités congolaises, mettre en œuvre. Je vous donne un exemple. Nous avons à l'heure actuelle beaucoup d'interrogations sur le secteur des routes. Le secteur des routes est un secteur qui est difficile. Il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes d'entretien, il y a des problèmes de maintenance. Et beaucoup sont qui considèrent qu'il faut que ce soit réalisé dans le cadre de partenariats publics-privés. C'est une approche qui est intéressante, mais quand on regarde le cas de la République démocratique du Congo, on peut considérer qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait des partenariats publics-privés pour la construction de routes en République démocratique du Congo. Et là, il y a un besoin qui est majeur, qui est de réunifier l'ouest et l'est du Congo. Vous avez un grand bassin de population à Kinshasa, vous avez un grand bassin de population et d'activité économique au Katanga, dans les Kivu, et au milieu, vous avez un endroit qui est vide, où il n'y a pas de liaison. Et donc, le Premier ministre nous dit, écoutez, monsieur l'ambassadeur, j'aimerais bien que l'Union européenne continue l'action qu'elle a entreprise dans le domaine des routes. Eh bien, dans le prochain programme sur le 11e FED, nous allons nous engager pour réaliser 150 km de route entre Chicapa et Mbujimayi. J'ai signé il y a quelques jours un contrat pour l'attribution de 114 km de route entre Bachamba et le pont de l'Orange, donc sur la route nationale numéro 1. Il y a déjà 655 km de route qui ont été construits entre Kinshasa et le Kasaï. Et donc, vous voyez que nous continuons. Et là, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons quelque chose à la demande du gouvernement congolais. J'ajouterai, parce que c'est important, que les programmes sont mis en œuvre par l'ordonnateur national. C'est lui qui commande les appels d'offres, qui organise les appels d'offres, qui prépare, instruit, programme. D'autre part, nous avons des comités de pilotage, nous avons des comités techniques, et je peux vous dire dans les discussions que nous avons avec différents ministres que les ministres disent ben, « j'aimerais bien faire telle chose ». Quand nous discutons par exemple du grand programme sur le fleuve, qui consiste à rendre le fleuve navigable de façon satisfaisante, sans danger, sans accident, entre Kinshasa et Kisangani, nous en discutons avec le ministre pour trouver les solutions techniques appropriées.
Voilà, monsieur l'ambassadeur, je vous redonne la parole tout à l'heure. Israël Moutala, vous êtes journaliste à Géopolis, magazine économique des activités extractives. Vous êtes analyste économique. Comment vous avez reçu ce rapport?
La première impression, c'est que, tout naturellement, d'abord, en tant que bénéficiaire de cette aide, nous ne devons qu'être reconnaissants envers les citoyens européens qui, par des temps difficiles, consentent une partie de leurs impôts à financer notre développement. Et donc, pour moi, la question de la durabilité de l'aide de l'Union européenne m'a plutôt interpellé. Ça veut dire que c'est une sorte d'alarme. Comment nous, en tant que bénéficiaires de cette aide, allons faire pour justement durabiliser, pérenniser cet apport? C'est ça la grande question. Mais je me suis posé aussi une autre question, c'est que 2 milliards d'euros dans plusieurs secteurs, ça paraît aussi comme un peu du saupoudrage. Si on avait pris les 2 milliards d'euros et qu'on les avait par exemple investis dans la réunification routière ou dans les voies de communication tout simplement, l'impact serait plus visible et il y aurait une plus grande cohérence. Une autre problématique qu'a soulevé ce rapport, c'est la question de la vision globale du développement de la RDC qui fait défaut, dans laquelle doit s'insérer justement les différents aides européens et d'autres partenaires. Mais il faut quand même remarquer que si aujourd'hui nous sommes arrivés à ce rapport, c'est que il serait dommage que le ministre de médias parlant au nom du gouvernement dise que cet échec serait l'échec de l'Union européenne et pas du gouvernement. Moi, je dis non. Si il s'avère que c'est un échec, ce serait l'échec des Congolais aussi, parce que ce sont les Congolais qui sont les premiers bénéficiaires. Parce que la première, il est difficile de mobiliser des fonds par ce temps qui court. Il faut d'abord rappeler que l'aide publique au développement devait atteindre en principe 0,7% du PIB de la plupart des pays, et que jusque-là, on n'arrive pas à atteindre ce seuil-là. Alors, si on arrive à dégager quelques maigres ressources, ces ressources doivent être utilisées avec la meilleure optimisation possible. Donc, le gouvernement n'a pas à se dédouaner en disant que ça ne le concerne pas, il s'en dédouane. Au contraire, le gouvernement doit chercher à comprendre les mécanismes de cette aide, s'insérer et être un partenaire. Donc, heureusement que l'ambassadeur l'a rappelé ici, que ils sont en étroite collaboration avec les différents ministères, les différents ministres. Et donc nous avons toute notre responsabilité, entre guillemets, dans cet échec. Mais je ne vois pas ça comme un échec, comme je l'ai dit tantôt. J'ai vu ça plutôt comme quelque chose qui doit nous réveiller pour mieux faire davantage. Mais je rappelle encore une fois aux Congolais que nous sommes, que ce n'est pas avec l'aide de l'Union européenne que nous allons développer. Le développement est d'abord une question nationale. L'aide de l'Union européenne vient en appoint. Donc la question de développement national, c'est une question éminemment congolaise. Donc si nos dirigeants ne comprennent pas la pertinence de la bonne gouvernance, la pertinence d'un appareil sécuritaire compétitif, s'il ne comprend pas la justesse d'un appareil judiciaire et de tous les éléments administratifs, on ne s'en sortira pas. On pourra mettre 10 milliards, 20 milliards par l'Union européenne, on se développera. C'est d'abord une question national avant d'être une question extérieure.
Alors Israël Moutala, 2 milliards d'euros étalés sur 8 ans en termes de résultats. Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de résultats quand on regarde la décentralisation, la police, le processus électoral, la réforme de la justice visiblement les résultats, les objectifs n'ont pas été atteints.
Oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire. Hein. Moi personnellement, je ne blâme pas les gens qui nous donnent. Je me dis, en tant que Congolais, quel est ce jour où nous serons en mesure de donner, justement. Ce sont des gens qui, l'Union européenne, c'est des gens sérieux, qui travaillent, qui respectent un certain nombre de principes, qui créent de richesses, et que par solidarité, justement, ils nous tendent la main. Mais ils ne sont pas obligés de nous donner leur argent. Ils ont assez de problèmes chez eux. Donc c'est à nous d'être assez sérieux, à être conséquents avec notre gouvernance pour dégager les moyens. Sur la police, par exemple, on a fait des années ici, on ne savait même pas le nombre de policiers qu'il y avait dans ce pays. Il a fallu que l'Union européenne vous dise, voilà, vous êtes combien. On demandait la liste de la paye, ça possédait tout un
certain. Mais visiblement, jusqu'à ce jour, on n'a toujours pas les chiffres exacts.
Bon, voilà. Justement. Mais pour que vous arriviez à avoir même une approximation, il a fallu que l'Union européenne vous donne de kits d'identification. C'est scandaleux. Et puis, vous allez par ailleurs crier, nous sommes un État souverain. Écoutez, de deux choses l'une, où vous êtes un État bébé, rester un État pas sérieux et vous allez subir ces genres de problèmes. Moi, je pense aujourd'hui que c'est vrai, 2 milliards, c'est à peu près, c'est énorme, hein, c'est à peu près la moitié de notre billet notre budget
national
en termes de ressources propres. Et donc, si nous avions un État plus structuré, on n'en serait pas là. Je vais donner un exemple.
Quand
la Banque mondiale a décidé de financer certains projets de développement, elle a décidé de contourner l'administration publique. Elle a créé des agences d'exécution, BCECO et UICOP notamment. Donc ça montre déjà un problème qu'il y avait là-bas justement pour coordonner l'aide, parce que le réceptacle administratif n'était pas approprié. Donc maintenant là-bas, avec Matata, on semble rentrer dans les normes, mais il faut maintenant justement qu'on agence les deux structures, l'Union européenne et le gouvernement, pour que nous arrivions à une efficacité de l'aide.
Victor Nzouzi, vous êtes coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement, vous êtes aussi analyste économique, vous avez suivi l'ambassadeur Jean-Michel Dumont, ainsi que le commentaire, l'analyse d'Israël Moutala. Comment, à votre niveau, vous avez analysé ce rapport?
Merci beaucoup et bonsoir à tous les auditeurs. Je pense que ça déçoit un peu, surtout par rapport à notre gouvernement, l'intervention du ministre. C'est comme si notre pays, 53 ans après l'indépendance, on était encore soumis. Hein, quand le ministre déclare ce qu'il a déclaré, sincèrement, ça fait de la peine que quelqu'un arrive dans un pays avec un fonds comme celui-là et que le gouvernement dise que voilà, ils font le bonheur du Congolais, des Congolais sans le Congolais. Et pourtant, le ministre oublie qu'il y a ce qu'on appelle COFED, ce dont l'ambassadeur a parlé. C'est une cellule d'ordonnancement. C'est une cellule technique, c'est l'œil et les oreilles du gouvernement. Donc, vraiment, c'est malheureux. Le gouvernement est informé. Et quand Israël parle de Matata qui fait un bon gestionnaire, mais c'était lui le ministre des Finances. Et la cellule, pour faire d'ici cette cellule, dépend du ministère des Finances. Dépend du ministère des Finances. Et donc, si aujourd'hui le porte-parole du gouvernement ne sait pas qu'il y a implication totale du gouvernement dans cette gestion, eh bien alors là, le gouvernement n'a pas existé. Parce que la COFED, donc la cellule d'ordonnancement, ça dépend du ministère des Finances. Et c'est une cellule qui a été créée depuis 2004 par arrêté ministériel du 6 novembre 2004. Alors, la responsabilité, ben, sincèrement, nous sommes responsables parce que quand vous lisez l'article 57 et 53 de l'accord de Cotonou, vous verrez les responsabilités que nous avons. 57 et 35 de l'accord de Cotonou, vous verrez les responsabilités que nous avons. Et donc, nous sommes responsables. mais aussi l'Union européenne a aussi une lourde responsabilité. Parce que jusque-là, l'Union européenne, par exemple, à ce qui concerne la société civile, l'Union européenne ne veut pas, la commission, en fait, la cellule de Kinshasa ici, la délégation de Kinshasa ne veut pas travailler avec la société civile. Et pourtant, la cellule de Kinshasa, donc la délégation de Kinshasa, avait l'obligation de travailler, le devoir, comme le gouvernement congolais aussi, de travailler avec la société civile. Mais qu'est-ce que l'Union européenne fait? Et très souvent, l'Union européenne, en fait, la délégation de Kinshasa, appelle quelques acteurs de la société civile et pour une consultation, juste une consultation, ils disent que voilà, nous avons déjà déterminé les zones de concentration, donc les thèmes et consorts, et après, vous avalisez. Donc l'Union européenne a aussi une responsabilité, mais le gouvernement, surtout le gouvernement congolais, qui aujourd'hui est presque, pas esclave, mais presque pas indépendant. C'est malheureux, quoi.
Victor Nzuzi, un extrait de ce rapport dit, aux yeux des auditeurs, l'efficacité du soutien européen à la gouvernance est donc limitée, entravée par de sérieux obstacles comme le manque de volonté politique, la faiblesse des capacités d'absorption d'un pays où le cadre administratif est encore très insuffisant. À suivre ce rapport, on a finalement l'impression que, j'utiliserai un mot un peu fort, que l'Union européenne a presque jeté l'argent par la fenêtre.
Mais l'Union européenne a jeté l'argent par la fenêtre parce que c'est comme j'ai dit, la délégation de Kinshasa ne voulait pas travailler avec les acteurs de la société civile. Et aussi, la délégation de Kinshasa, moi je pense que devait normalement, et Kinshasa et le gouvernement et l'Union européenne devaient faire ce qu'on appelle le revue mi-parcours. En principe, à ce moment-là, le gouvernement congolais pouvait dire, comme vous ne voulez pas que nous prenions part à la gestion de ces fonds, eh bien nous arrêtons. C'est comme aussi l'Union européenne pouvait dire, à ce moment-là, la délégation de Kinshasa pouvait dire, gouvernement congolais, vous devez prendre vos responsabilités parce que jusque-là, vous ne veillez pas alors que vous avez la cellule technique, la cellule d'ordonnancement. J'ai dit, cette cellule-là, c'est les yeux et les oreilles du gouvernement. Donc, nous sommes bel et bien représentés. Mais écoute, l'Union européenne jette l'argent par la fenêtre, mais l'Union européenne, elle donne d'une main et de l'autre, c'est ce qu'elle tire. Quand on a tout libéralisé dans ces pays, eh bien, c'est en faveur plus souvent des organisations de l'Union européenne, des structures, des compagnies de l'Union européenne. Donc, ils n'ont pas tellement jeté de l'argent. Ils savent que quand le Congo n'est pas bien organisé, eh bien, écoute, il y en a ceux-là qui peuvent piller au Congo.
Nous allons prendre pour vous, Victor Nzuzi, cette réaction qui nous vient du Katanga.
Yves Louboulé, j'habite Lubumbashi, province du Katanga. Il convient de relever que dans l'exécution de projets financés par des agences internationales, 50 à 60% des fonds sont consommés par les bailleurs de fonds sous forme de loyers, rémunérations, voyages et surtout la prise en charge des experts internationaux. Ces derniers ne viennent que pour récupérer la part qui revient aux bailleurs de fonds, une sorte d'opération retour. Et au finish, c'est une infime partie du financement qui est injectée dans les activités proprement dites, d'où difficile d'atteindre le résultat escompté.
Victor Nzuzi, vous l'avez également effleuré tout à l'heure. Peut-on parler également des malversations au niveau de l'Union européenne?
Ben, moi, je pense que l'Union européenne, face à un État faible, ou presque, je dirais, inexistant, face à un État où les dirigeants, dans la plupart des cas, sont dans la magouille, dans la corruption qu'on a toujours dénoncée. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Mais ils s'imposent. Donc, nous devons prendre conscience. Je pense que c'est pourquoi on devait faire une concertation, ce qu'ils ont appelé concertation là. On devait faire des concertations, des dialogues très très sérieuses pour voir réellement qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer le pays. L'Union européenne en profite parce que il y a existence, inexistence de l'État, c'est clair. Nous ne pouvons pas crier, nous ne pouvons pas nous plaindre. L'État, il n'est pas là. Et le ministre l'a dit. Les gens viennent et ils s'imposent. Où est l'État? Où est l'État?
Merci.
Où est l'État?
Merci Victor Nzuzi. Monsieur l'ambassadeur Jean-Michel Dumont, dans le même sens que l'auditeur Yves Loubouli que nous venons de suivre de Lubumbashi, Kadi Kadima, cet internaute qui dit « Nous savons que tout l'argent de la coopération disparaît dans sa propre bureaucratie. Alors où est le problème du Congolais? S'ils veulent aider les Congolais, ils doivent destiner cet argent aux besoins à impact direct sur la population, tels que l'agriculture, l'élevage et l'éducation. »
Écoutez, je pense que ce qu'il faut, c'est voir quelle est la stratégie. Si vous, vous avez des projets qui sont à impact direct sur la population, vous aidez la population pendant un certain temps, mais vous aidez pas au développement du pays. Notre stratégie, je crois, elle a été très claire et elle est pertinente, c'est aider le Congo à mieux gérer ses richesses. Ce pays a des richesses qui sont exceptionnelles. Il a aujourd'hui une croissance économique qui est bonne et la population n'en profite pas. Donc la question, c'est comment traduire cela dans la réalité pour la population. Et le seul moyen d'intervenir, et là je crois que le gouvernement est très clair, il l'a dit le Premier ministre l'a dit lors de son investiture, c'est faire de la bonne gouvernance l'axe majeur de son action. Et toute notre action dans tous les domaines vise à améliorer la gouvernance. Et il y a des secteurs où on a eu des résultats tout à fait remarquables. Nous avons un programme, par exemple, qui concerne les finances publiques. On est passé en quelques années de recettes propres du budget de l'État d'environ 600 millions de dollars en 2006 à pratiquement 4 milliards de dollars aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 7 ans, on a multiplié par 4. En faisant bien, on peut arriver à 16 milliards de dollars en fin de législature. Et avec ça, vous alimentez les budgets de la santé, le budget d'éducation, et vous permettez à ce moment-là de prendre le relais. Quelle est par exemple notre politique en matière de santé? Nous voulons éviter justement que nous découragions l'effort du gouvernement et que nous soyons dans une politique de substitution. Et donc notre politique, donc d'abord elle s'appuie sur la politique nationale de santé, elle s'appuie sur ce qui existe, c'est-à-dire les directions provinciales de santé. Et l'objectif est très clair, c'est avoir des centrales de médicaments qui fonctionnent, et c'est habituer la population, solvable évidemment, les plus riches, pas les autres, à payer environ 30% des coûts. Et le gouvernement, à travers le budget, à travers l'augmentation qui sera permise des recettes fiscales et des recettes budgétaires, pourra alimenter ce budget. C'est ça l'objectif. C'est pas de soigner dans l'urgence. Ça, on l'a fait depuis des années. C'est une bonne partie de nos dépenses. C'est notamment tout ce qui est à travers l'aide humanitaire. Ça représente aujourd'hui près de 80 millions d'euros par an. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est le développement. Et le développement, on le fait en partenariat, comme je l'ai dit, avec le gouvernement qui fixe les objectifs. Et on le fait aussi avec la société civile, parce que on a un dialogue extrêmement actif avec la société civile. Nous avons participé, nous avons aidé à la constitution du forum de la société civile qui s'est tenu à la fin juillet. Et aujourd'hui, hier et demain, nous avons, sur les 4 secteurs qui ont été définis par le gouvernement, des ateliers qui se tiennent à la délégation avec les organisations, les associations qui sont justement compétentes dans ces domaines. Donc dire qu'il n'y a pas de concertation n'est pas exact. Et nous aurons la semaine prochaine, le 15 octobre, une grande réunion avec la société civile. Nous aurons, lors des journées du développement, les 26 et 27 novembre, de nouveau des journées de relations, des journées d'ateliers avec la société civile. Donc nous sommes aussi en relation étroite avec la société civile.
Alors, Monsieur l'Ambassadeur, très brièvement, je reviens à la question de la bureaucratie posée par les auditeurs. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs qui pensent que l'argent de la coopération se volatilise, notamment il y a un chef de projet qui arrive, un expatrié qui a 40 000 dollars, qui a 10 fois le salaire des autres agents, et ça se dilapide dans des structures comme ça. Brève réaction.
La brève réaction, je crois que c'est d'abord que c'est une part très faible en réalité des projets. Et les groupes d'experts sont choisis de façon ouverte par le système à travers la COFED. Et nous avons des experts qui peuvent être européens, qui peuvent être d'autres pays. Que nous avons des experts qui peuvent être des Congolais, des Africains, des Européens, des Américains. Et donc, il n'y a pas de différence, il n'y a pas un choix particulier. Pour revenir sur l'Union Européenne, quand même, je voudrais dire une chose.
Très rapidement, je vous en prie.
Mais c'est que, quand vous regardez les chiffres, vous vous rendez compte que l'Union Européenne représente une part infime, le Congo représente une part infime de ses exportations et une part infime de ses importations. C'est environ 0,1% et 0,3%. Vous regardez les entreprises européennes qui sont présentes au Congo, il y en a très peu. Donc dire que des entreprises européennes pillent le Congo, je crois que c'est totalement à côté de la réalité.
Israël Moutala, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale.
Merci.
c'est Pepe Lichungi Botomoito, je vous appelle depuis Kisangani en province orientale. Est-ce que le Congo n'est pas capable de se prendre en charge? Le fait de beaucoup aimer les aides extérieures, cela fait à ce qu'aujourd'hui le pays soit ridiculisé et pourtant nous sommes en mesure de nous prendre en charge. Prenez l'exemple du fait Moussa Kabila. Je pense que cette situation doit à tout prix interpeller nos parlementaires à l'adoption du budget de 2014 où ils ne doivent pas compter sur les aides extérieures.
Réaction Israël.
Je dis, franchement, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas encore un État mature, capable de mobiliser de ressources. Non. Il faut reconnaître, il faut avoir de la modestie et nous ne sommes pas encore un État mature et capable de mobiliser assez de ressources pour nous prendre en charge. Mais le premier échec, le premier combat, c'est le combat mental que nous avons échoué justement. La plupart de nos responsables politiques n'ont pas la culture d'État, n'ont pas la culture républicaine de l'échelon national à l'échelon local. C'est un problème de mentalité, de gouvernance, de gouvernementalité. Voilà, c'est un grand problème. Avec Mouzé, c'est vrai, mais Mouzé, je pense que son modèle est un modèle un peu simple. C'était un mythe. On ne va pas refaire l'histoire, mais je pense que pendant la gestion de Mouzé, on était encore plus cracraïque qu'aujourd'hui. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, en toute modestie, l'Union européenne qui nous tend la main, je pense qu'il faut un peu de respect à cette générosité-là. Cet argent, moi, j'ai visité beaucoup de projets à travers le pays. Il y a des coins où l'État est inexistant et sans l'aide de l'Union européenne et de certains partenaires au développement, ce serait la catastrophe. Et moi, je pense aujourd'hui que les autres partenaires qui sont plus économiquement plus forts que l'Union européenne aujourd'hui, je penche à la Chine, mais la Chine ne peut verser aucun penny dans l'humanitaire ou dans quoi que ce soit. Et moi, je pense que réfléchissons à mieux canaliser cette aide. Aujourd'hui, nous parlons du pont Luangé, il n'existerait pas sans l'Union européenne. Nous parlons de la route de Bandundu, une bonne partie de cette route a été financée en majeure partie par l'Union européenne, exécutée par les Chinois à un certain tronçon. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne a permis certains progrès. Moi, je respecte cela. Mais je pense que cela ne nous dédouane pas de notre propre responsabilité. Améliorons notre gouvernance et nous, justement, nous allons nous émanciper de l'aide européenne. Ils en ont d'ailleurs besoin de ces ressources-là. Vous voyez la crise qu'il y a en Espagne et ailleurs. Ils ont besoin de ces ressources-là. Et donc, s'ils prennent le peu de ressources qu'ils ont en ce moment et nous les donnent, je pense que nous leur devons un minimum de respect.
Israël, il y a Mitterrand Bossa-Elema, cet internaute qui dit non seulement le rapport, mais la réaction du gouvernement congolais montre que ce sont ceux qui apportent de l'aide, qui lui imposent des règles, alors que c'est le gouvernement qui devrait en amont fixer les priorités et orienter le bailleur. Sinon, refuser l'aide, dans ce cas, il aurait le contrôle de tout ce qui vient au nom du Congolais sans qu'il n'en voie la couleur. N'est-ce pas ça qui pousse finalement non seulement la RDC, mais plusieurs États africains à se jeter les yeux fermés dans les bras des partenaires asiatiques tels que la Chine?
Oui, mais la Chine, je vous dis qu'elle est parfois même plus capitaliste que les Occidentaux. Mais ça, c'est notre débat. J'aimerais dire aussi que, justement, le gouvernement est conscient, justement, qu'il faut canaliser l'aide, il faut mieux la structurer. Et je pense qu'ici, il y a une plateforme, une structure qu'on appelle la plateforme de la gestion de l'aide et des investissements, qui fait des efforts, justement, pour rendre plus efficace. Il y a la déclaration de Paris aussi, sur la transparence de l'aide. Il y a des mécanismes qui sont mis en place justement pour une meilleure efficacité de cette aide-là. Et je pense que le responsable de cette plateforme, qui est M. Yvan Mombong, a fait un certain nombre, avec l'aide de PNUD, a fait un certain effort pour qu'on puisse retracer toutes les aides extérieures, pour qu'on puisse les quantifier, les localiser et tout ça. Et même dans nos différents budgets, dans nos différentes lois de finances, il y a toujours l'aide extérieure qui apparaît. Ce qui montre bien que le gouvernement est associé et qu'il a l'information. Et donc moi je pense que la question de l'aide ne se pose pas en termes de sa pertinence, mais comment justement... Comment va-t-on durabiliser cette aide-là? C'est ça la grande question. La stratégie est bonne. La question qui a été posée par la Cour des comptes, à mon sens, c'est la question de la pérennisation. Et cette question, plutôt que ça soit, c'est pas une condamnation, c'est une interrogation qui va bientôt trouver réponse quand les deux partenaires, gouvernement et Union européenne, se mettront autour d'une table et vont discuter.
Victor Nzuzi, à Jean-Pierre Goumenoté qui nous écrit d'ici Rouen, province orientale, qui dit « Le gouvernement congolais doit plutôt profiter d'une telle situation pour donner une leçon de tolérance zéro en diligentant une enquête et en déférant les coupables devant la justice, car ces fonds ne se sont pas volatilisés dans l'air, mais ont été détournés par des personnes physiquement visibles. Ces fonds ont été donnés au nom du gouvernement congolais et non pour des individus. Le porte-parole du gouvernement n'a pas raison de s'exprimer ainsi. C'est une fuite de responsabilité. Je voudrais que vous puissiez insister sur la tolérance zéro, l'aspect judiciaire.
Non, mais je pense que c'est d'abord, même par rapport à ce financement, il y avait cette réforme de la justice qui n'a toujours pas marché. Et c'est ça le résultat. Quel résultat nous avons avec la justice aujourd'hui? Et même la police qui a toujours matraqué les gens quand il s'agit de manifestations. Donc la tolérance zéro, moi je pense que j'ai toujours demandé, au niveau de notre association, nous avons toujours demandé même l'audit. Même pour la dette passée, même pour le fonds chinois. Et pour ici, à ce qui concerne ce fonds ici, je vous assure, si vous prenez l'accord de Cotonou, vous lisez les articles 57, vous lisez les articles 35, notre gouvernement ne peut pas se dédouaner. C'est vraiment de l'irresponsabilité. Et vous avez COFED qui est là. Donc, l'argent, si l'argent s'est volatilisé, il ne faut pas aller chercher ailleurs. C'est notre gouvernement qui est responsable. Parce que notre gouvernement ne devait pas laisser faire. En principe, s'il faut sanctionner les gens, il faut les sanctionner au ministère des Finances, et qui était malheureusement hier dirigé par le Premier ministre actuel, puisque ça a commencé déjà à son époque, et au ministère du Plan. Mais aussi, il faut prendre les autres ministères, comme la Justice, et comme l'Intérieur, ou le projet de la police. Donc, nous sommes dans cette situation-là. Mais malheureusement, notre gouvernement ne peut pas sanctionner. Notre gouvernement a toujours entretenu la corruption. Vraiment, excusez-moi, c'est trop dur, mais c'est ça. Notre gouvernement ne veut jamais faire l'audit. Jamais.
Victor Nzuzi, alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rentabiliser cette aide dont la RDC est bénéficiaire?
Ben, écoute, aujourd'hui, moi, je pense que on va encore demander, malheureusement, on va demander à ce Parlement, qui a la Cour des comptes, de faire son travail, puisque nous avons aussi une Cour des comptes ici. Mais sinon, alors, que les citoyens eux-mêmes se constituent partie civile et portent plainte, ou contre même l'Union européenne ou la délégation à Kinshasa qui a mal géré, et le gouvernement. Il faut arriver à le faire. Il faut arriver à le faire, parce que notre gouvernement, c'est malheureux. Jamais. Ces gens-là, ils ne vont jamais changer. C'est pourquoi j'ai toujours demandé le changement de ces hommes politiques. Il faut que ça change. On ne peut pas continuer avec les mêmes hommes politiques qui sont là 10 ans, 15 ans, il y en a même qui sont là depuis Mobutu, et qui entretiennent cette situation. Donc pour le peuple congolais, c'est vraiment malheureux. Il faut qu'on aille de l'avant.
Victor Nzuzi, il nous reste moins de 7 minutes pour terminer cette émission. Israël Moutala, parmi les faiblesses, parlait notamment du saupoudrage, du gaspillage de ces financements. Ne faudrait-il pas les regrouper en des projets un peu plus clairs et revoir les ambitions à la baisse pour que réellement la RDC puisse en profiter, brièvement? Victor Nzuzi?
Oui, je vous écoute.
Alors, je vous demandais, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'Union européenne, par exemple, revoie à la baisse les ambitions et canalise cet argent dans moins de projets au lieu de le gaspiller dans plusieurs projets à la fois?
Ben, ça aussi, ça c'est une chose, mais ce n'est pas l'Union européenne, c'est le gouvernement congolais. Donc, le COFED, il faut qu'on comprenne, cette cellule d'ordonnancement, c'est cette cellule normalement qui propose l'Union européenne avalise. Et le gouvernement congolais devait travailler avec la société civile, comme l'Union européenne. Donc, il faut voir, en 7 ans, quand vous prenez 2 milliards de dollars, essayez un peu de diviser, qu'est-ce que ça représente? Mais comme nous sommes dans cette situation-là, voilà. Moi, je pense qu'il faut réellement mieux choisir les zones de concentration. Lui, l'ambassadeur, il connaît bien. Mais ces zones de concentration sont toujours choisies par la délégation ou l'Union européenne elle-même,
Et voilà, le gouvernement, et comme il n'est pas là, d'ailleurs, le ministre l'a dit, il n'est pas là, il est toujours absent. Alors, il n'a qu'à démissionner, hein, le gouvernement.
Alors, juste une petite question avant de donner la parole à l'ambassadeur. Il y a Claude Kawayuabeka, cet internaute, qui dit « Pourquoi aider les Congos pendant que nous n'en avons pas la culture ?» Brièvement, Victor Nzozi.
Mais c'est une obligation, c'est une obligation. Et c'est, ça fait partie de ce qu'on appelle, en fait, ce dont Israël parlait tout à l'heure. On doit aider, c'est ça, là, la coopération, ça fait même partie des objectifs du millénaire. Et n'oubliez pas aussi que l'Europe a une responsabilité historique, hein, la colonisation. Combien l'Europe a payé? Combien? Combien l'Europe a payé?
Merci, Victor Nzozi. Monsieur l'ambassadeur, il nous reste moins de 5 minutes. On attaque pratiquement la dernière partie de l'émission. Dans le rapport, il est dit, je cite, « Les auditeurs insistent, les Européens doivent se montrer plus exigeants à l'égard de leurs partenaires congolais. » Qu'est-ce que ça voudrait dire pour l'avenir?
Écoutez, je crois qu'il faut qu'on travaille dans une relation de confiance et de partenariat avec le gouvernement et l'ensemble de la société pour arriver à des résultats. On a posé la question du saupoudrage. Alors, je crois qu'en fait, il n'y a pas tant de saupoudrage que ça, puisque quand on regarde, on a 4 secteurs de concentration. On construit une route. On a une politique de santé qui est fondée essentiellement sur la fourniture de prestations de soins. On a l'environnement qui est le développement d'un certain nombre de zones exemplaires pour montrer que la protection de l'environnement n'est pas incompatible, bien au contraire, avec le développement économique, et puis la réforme du secteur de sécurité, parce que nous considérons avec le gouvernement que la gouvernance est au cœur. Et on prend par exemple la question de l'ajustement. Bon, la question de la justice est fondamentale parce qu'elle est à la base du contrat social. C'est-à-dire qu'il faut que tous les citoyens congolais puissent s'adresser avec confiance à la justice en ayant l'espoir qu'elle sera impartiale et qu'ils auront satisfaction. Et ça, c'est très important, parce que sinon, c'est tout le lien social qui disparaît. Et donc, toute notre action est là. Alors, on a fait des erreurs, parce qu'on a trop investi sur les bâtiments, en comptant effectivement trop sur le fait que les juges seraient formés, qu'ils arriveraient. Aujourd'hui, on est dans des programmes qu'on définit avec les autorités congolaises et qui sont beaucoup plus intégrateurs. C'est-à-dire que on le voit dans l'ensemble de la chaîne pénale ensemble, et pas simplement construire un palais de justice.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Permettez que je considère cela comme votre conclusion également. Israël Moutala, qu'est-ce qu'il faut faire pour rentabiliser l'aide à la RDC venant de tous les partenaires?
Bon, d'abord, c'est mettre en œuvre les recommandations et le travail appréciable de la plateforme de la gestion de l'aide et des investissements. Une structure qui est au sein du ministère du plan, qui a une vision plus large, une vision à long terme sur le besoin du pays en matière de développement et qui voit qui apporte quoi dans quel secteur. Donc là, il s'est fait un travail de coordination. On doit prendre en compte le travail qui est fait à ce niveau-là. Mais j'aimerais dire ici, quand on parle de détournement, il ne s'agit pas de détournement dans ce rapport. Dans ce rapport, il s'agit de la durabilité. Ça veut dire que si l'Union européenne qui appuie un centre de santé, par exemple dans le Kasaï, en produit pharmaceutique, et que si elle arrête d'appuyer, par exemple,
que ça puisse continuer.
Donc il n'y a pas de relais. Ça veut dire que le ministère de la Santé provincial ou le ministère de la Santé nationale n'est pas en mesure de prendre le relais. C'est ça. Maintenant, comment on fait pour que, quand l'aide de l'Union européenne qui n'est pas éternelle tarirait, comment est-ce qu'on fait pour prendre le relais? C'est ça le grand débat. Et donc, pour l'efficacité de l'aide aussi, pour parler de la question de saupoudrage, moi je dis tout simplement qu'on pouvait mieux faire. Quand on voit ce qu'a fait la Banque mondiale, si la Banque mondiale se concentre sur les infrastructures, que l'Union européenne sur le social, l'éducation et la santé, les autres Merci. Sur la gouvernance, on serait plus efficace.
Merci. Victor Nzozi, conclusion.
Oui, je pense que l'Union européenne doit prendre ses responsabilités et former aussi la société civile pour qu'il soit capable de suivre. Et notre gouvernement, sincèrement, ce qu'il venait de faire, c'est la honte. C'est pas normal. Il est absent, totalement absent, et c'est malheureux.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que je recevais Jean-Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Israël Moutala, journaliste à Géopolis, magazine économique des activités extractives, également analyste économique, ainsi que Victor Nzozi, coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement, analyste économique aussi. Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Merci à Sylvain Matundu, Guy Maté, Samuel Kachak, Bob Landou qui m'ont aidé à vous présenter cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. Moi, c'est Alain Irung-Mouchige. Au revoir.